Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr en compagnie de Corinne Morel d'Arles. Bonjour.
Bonjour.
Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, de retour à l'antenne, enfin, pour un nouveau compte-rendu de mandat radiophonique, sujet de l'Assemblée plénière, première de l'année, des 8 et 9 juillet dernier.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu une très longue période là, entre deux assemblées plénières, puisque la précédente était au mois de décembre de l'année dernière. Alors évidemment, la période de confinement a un peu bouleversé l'agenda de la région. Mais enfin, même si on exclut cette période imprévisible et un peu particulière, on constate une fois de plus que le rythme quand même de travail de l'Assemblée n'est pas très soutenu à la région. Et le résultat, malheureusement, c'est que du coup, les assemblées plénières, comme il n'y en a pas souvent, elles sont archi-denses. Tout est compacté sur deux jours, avec des examens de rapports qui s'enchaînent. Et du coup, les derniers passant aux alentours d'une heure du matin, autant vous dire que l'attention des élus a quand même tendance, parce qu'on est après tout qu'humain, à se relâcher un peu au bout de 12 heures de plénière.
Est-ce qu'on met des sujets très importants justement à la fin, pour être sûr que tout le monde soit cramé?
Non, je ne peux pas dire ça.
C'est pas à ce point-là.
Non, honnêtement, on ne peut pas dire ça. Non, il n'y a pas de manipulation qui compterait sur le degré d'épuisement et d'usure des élus en fin de soirée pour faire passer des choses particulièrement affreuses. Ils en font aussi passer le matin.
Est-ce qu'il était prévu d'en faire quand même une pendant cette période, ou est-ce que c'est vraiment la période qui a fait que ça s'est
oui,
reporté?
Oui, non, il y en avait effectivement qui étaient prévus et qui ont été reportés. Du coup, il y a des choses qui ont continué à se faire par visioconférence, mais tout le monde était d'accord pour attendre qu'on puisse se retrouver physiquement pour avoir des débats de bonne tenue et pour tenir cette assemblée plénière, non pas à distance, mais de manière physique dans l'hôtel de région. Donc du coup, entre-temps, il y a quand même eu quelques commissions permanentes, donc, qui sont des sessions qui durent moins longtemps, où tous les élus ne sont pas présents et qui sont plutôt sur de l'application de grandes orientations politiques qui ont déjà été votées justement en assemblée plénière. Donc il y a quand même heureusement des choses qui ont continué à fonctionner et à être votées, mais pas de nouvelles grandes politiques régionales, en tout cas sur les 6 mois écoulés.
Et dernier point peut-être sur cette question, est-ce que pour le coup, du fait qu'il y ait très peu d'assemblées plénières, est-ce que on en serait en droit de se demander si ça avance à la région? Qu'est-ce que vous foutez finalement les uns les autres? Non, mais pendant ce temps-là.
Alors, les choses, il y a quand même des choses qui avancent, et heureusement, entre les assemblées plénières, ne serait-ce que le fonctionnement courant de la région, qui inclut le lancement de nouveaux projets, de nouvelles subventions, mais dans les cadres qui ont déjà été votés, délibérés de manière collective. Donc, en fait, c'est simplement qu'il n'y a pas de nouvelles politiques régionales qui sont lancées. Mais il y en a déjà beaucoup qui existent et qui, elles, continuent de fonctionner de manière normale, quoi, on va dire.
Donc c'est une gestion lente.
Voilà, c'est une gestion lente et en tout cas sans grosse bifurcation, on va dire.
Et puis par rapport au Covid, il y avait un dispositif quand même là pour vos retrouvailles. C'était pas très physique finalement.
Ouais, c'était à moitié physique puisque du coup il y avait seulement un élu sur deux qui était réellement présent dans l'hémicycle. Les autres élus étaient eux aussi présents physiquement dans l'hôtel de région, mais confinés dans des salles par groupe politique avec des écrans télé permettant de suivre les débats en direct.
Parce qu'on peut être contaminé entre groupes politiques, c'est bon?
Voilà,
il faut
ça,
pas mélanger les groupes.
Ouais, alors c'est d'ailleurs, ça a donné lieu, vous imaginez, à un nombre de discussions interminables sur les différents dispositifs. Moi, j'avais suggéré à un moment donné qu'on soit plutôt par salle, par département ou par origine géographique, par exemple. Ce qui, en termes de propagation, faisait un peu plus de sens. Après, très honnêtement, j'ai pas pleuré sur le fait d'être plutôt avec mes camarades qu'avec les autres élus régionaux du département. Mais donc voilà, en tout cas,
mais
c'est ça qui a été retenu finalement.
C'est pas... L'Assemblée nationale se réunit à plein pot veux dire, c'est bizarre.
Bah là, en l'occurrence, l'idée était de laisser des sièges tampons, en fait, pour que la distance entre chaque élu soit je crois, plus d'un mètre cinquante. Après, y avait les mesures de port de masque, de gel hydroalcoolique, des choses comme ça, qui étaient par ailleurs plus ou moins respectées. J'ai pas eu l'impression, en passant devant la salle de conférence de presse, d'ailleurs, que l'exécutif lui-même respectait vraiment toutes ces consignes. Mais bon, voilà, disons que bon an, mal an, y a eu quand même des précautions de prise. Et je pense que voilà, personne n'a envie qu'on découvre un cluster au niveau des élus régionaux qui sont ensuite tous repartis dans leur région d'origine. Je crois que personne n'a envie d'être le facteur propagateur dans son territoire d'un virus ramené de Lyon.
Bon, allez, sujet suivant. C'était principalement l'objet de cette plénière, de parler des comptes administratifs et de gestion de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et là-dedans, vous avez essayer de tenter un budget carbone.
Ouais. Bah en fait, le compte administratif et le compte de gestion, c'est des passages obligés. C'est-à-dire que tous les ans, à peu près à cette période de l'année, l'exécutif est tenu de présenter effectivement ces outils qui sont des outils qui sont censés démontrer la bonne gestion de la région, en fait. On sait que c'est voilà un point sur lequel Laurent Wauquiez est très attaché
puisqu'il communique
beaucoup voilà sur le fait que ce serait la région la mieux gérée de France et il communique beaucoup notamment sur les notes qui sont attribuées par les agences de notation financière comme pour les entreprises hein, les collectivités territoriales aussi font l'objet de cette notation AA. Voilà ce qui nous fait régulièrement, évidemment, des sources de plaisanteries sans fin sur le triple A des andouillettes, etc. Et donc, en fait, tous les ans, au moment de ces présentations, on portait, nous, un peu toujours le même discours pour dire que, en fait, ce qui était considéré comme des dépenses sur lesquelles il y avait des économies à faire, bah, nous, on considérait plutôt que c'était des investissements et que les économies, quand elles sont faites au détriment des moyens humains, des subventions de fonctionnement des associations, etc., bah, c'est pas forcément des bonnes économies et que c'est... Voilà, que la région n'est pas une entreprise et que donc ce critère de bonne gestion était dévoyé par rapport à la mission de service public qu'on est censé remplir. Et puis du coup, cette année, on avait envie de changer un petit peu de discours, parce que à force de répéter les mêmes choses et de ne pas être entendu, il y a quand même un moment où on se lasse un peu. Et donc, cette fois-ci, on s'est dit qu'on allait faire une contre-proposition complémentaire. Et donc, on a proposé à la majorité régionale d'adopter, en plus de ces éléments financiers et économiques, un budget carbone qui serait soumis aux mêmes obligations de suivi que le budget financier et qui servirait au moins autant de boussole aux décisions politiques qui sont prises à la région. C'est-à-dire tout simplement un budget carbone, c'est de faire de manière annuelle une sorte de reporting sur des indicateurs d'émissions de gaz à effet de serre, d'impact environnemental, à la fois des activités directes de la région, donc par exemple l'activité de l'hôtel de région, la manière dont les fonctionnaires territoriaux viennent travailler, les projets...
Donc qui étudier sont... statistiquement la consommation du bâtiment, les kilomètres dépensés...
Voilà. Donc là, il y a des choses déjà qui sont faites, mais de manière beaucoup moins rigoureuse que le budget financier. Et en plus de ça, de rajouter justement des règles pour tendre vers le zéro émission carbone et donc de mesurer aussi l'impact de tous les projets qu'on finance en tant que région. Parce que la région finance aussi, on y reviendra tout à l'heure, beaucoup de projets qui sont extrêmement toxiques pour le climat et pour l'environnement et que ça puisse rentrer dans une sorte de comptabilité environnementale que la région pourrait tenir avec autant de rigueur que ses comptes économiques.
Alors, on précise un peu plus. Un budget, on s'entend dire que peut-être il va y avoir de l'argent dans un coin. Là, c'est l'inverse. C'est d'essayer de mesurer ce que coûte certaines politiques ou le fonctionnement de la région.
C'est-à-dire que c'est même plus que ça. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui combien la France peut émettre si on prend les émissions de gaz à effet de serre par exemple, pour rester, on va dire, dans les objectifs des accords de Paris qui étaient donc le dernier grand sommet de négociation internationale sur le climat. Donc on sait à peu près chaque année quelles sont les émissions de gaz à effet de serre que la France peut émettre. On pourrait très bien calculer sur le prorata du nombre d'habitants et de la population régionale, du coup, le total d'émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être émis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et à partir de là, avoir un suivi comptable, en fait, de ces émissions, comme si c'était des euros, sauf que c'est des gaz à effet de serre et des tonnes de gaz à effet de serre, et de tenir cette comptabilité pour pouvoir dire, par exemple, que au 31 août, on a émis tout ce qu'on pouvait émettre normalement sur une année, et donc quel dispositif de correction on met en place pour que ces émissions, elles ne dépassent pas le plafond annuel.
Et comme ce sera un budget, on pourrait faire des économies dedans. C'est ça ce qui est...
Tout à fait. Voilà. Après, on pourrait effectivement imaginer faire des économies. Et je peux vous dire que vu les projets qu'on voit passer, les économies, on sait déjà où on pourrait les faire.
Alors cette proposition, évidemment, a fait plouf.
Oui. Elle n'a pas recueilli un enthousiasme délirant. Mais comme à chaque fois, on se dit, ça permet peut-être de... quand même de semer des graines dans les esprits de quelques élus plus ouverts que d'autres. En tout cas, on considère que ça fait partie de notre rôle, qu'on soit entendu ou pas, parce qu'on n'est pas juste là pour être entendu par la majorité, on est aussi là pour porter la voix d'un certain nombre de citoyens qui sont de plus en plus inquiets par ces questions justement climatiques et de dérèglement, quoi.
Est-ce que le passage, j'en profite, post-municipal, sachant que Lyon et la métropole de Lyon même sont passés à l'écologie, de manière un peu large, est-ce que c'est pas quelque part j'allais dire quelque chose qui va permettre d'appuyer ce genre de politique au niveau de la région, ou est-ce que c'est clairement...
On l'espère, très honnêtement. Hein. C'est-à-dire que concrètement, le fait, c'est particulièrement vrai
Lyon-Grenoble,
région Lyon-Grenoble. Il y a aussi des changements de majorité à Chambéry, à Annecy. C'était quand même pas franchement gagné d'avance. Donc concrètement, il y a quand même quelque chose qui s'est exprimé, même si c'est à relativiser, parce que quand on regarde le taux de participation, on se dit que ça concerne pas tant de personnes que ça.
Mais c'est valable pour tous les élus. Bon.
Voilà, c'est valable pour tous les élus, et n'empêche que c'est des changements à la tête des municipalités qui vont forcément se ressentir dans la manière dont ces villes vont être gérées. Et donc on espère effectivement que ça pousse les autres, même si c'est juste par esprit de compétition électoraliste, à adopter un petit peu plus l'écologie, pas seulement dans les discours, mais aussi dans les actes. Et a priori, au moins, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le dire, naturellement, mais on sent quand même une volonté, même de la part de Laurent Wauquiez, de verdir son discours, ce qui n'était même pas le cas avant, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas ce souci, en fait, de faire semblant. Là, on sent quand même qu'il y a une volonté de ne pas laisser le monopole de l'écologie à la gauche, concrètement. Par contre, c'est clair que le passage du discours aux actes risque quand même encore de prendre un certain temps au vu de ce qu'on a observé pendant cette session.
Et du coup, on en parle peut-être tout de suite. Il y avait une délibération concernant l'environnement.
Oui.
Alors, le détail, par exemple, histoire qu'on juge sur pièce.
Oui, tout à fait. Alors, c'était effectivement la grande délibération environnement du mandat de Laurent Wauquiez qui passait pendant cette session, avec des choses assez intéressantes dedans, notamment un contrat signé entre l'État et la région sur les questions de biodiversité, qui sur le papier est extrêmement ambitieux, qui réaffirme par exemple la primauté de la séquence éviter, réduire, compenser. Et dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on commence par éviter des projets qui portent atteinte à la biodiversité. Si vraiment on ne peut pas les éviter, on les réduit au maximum. Et si vraiment on n'a pas pu les réduire totalement, alors on regarde du côté des compensations. Souvent, les projets qu'on voit passer, on va directement à la case compensation, ce qui permet juste de déplacer le problème, en fait, et certainement pas de préserver la biodiversité. Donc, ce contrat État-région est étonnamment ambitieux. Je dis étonnamment parce que quand on voit ce que fait le gouvernement et ce que fait la région, on s'étonne qu'en se mettant d'accord, ils arrivent à faire davantage que la somme des deux. Mais en tout cas, sur le papier, en tout cas, c'est intéressant. On était aussi, évidemment, très, très intéressés par cette délibération parce qu'un des chapitres de la délibération était la reprise de notre fameux plan arbre que nous avions présenté à la fin de l'année dernière, sur lequel on avait beaucoup travaillé pendant un an et qui n'avait pas été soumis au vote, malheureusement, mais du coup qui a été soumis au vote cette fois-ci. Alors du coup, sous l'étiquette de la majorité LR, mais peu importe, puisque au moins ce plan arbre... C'est le même, mais bon. Au moins ce plan arbre a été adopté.
Magnifique.
Notamment dans sa dimension de débitumisation des cours de lycée, etc. Et de plantation d'arbres en ville, notamment pour créer des îlots de fraîcheur, mais aussi d'arbres champêtres, notamment pour tout ce qui est haies, avec tous les bienfaits que ça apporte, que ce soit à l'agriculture ou aux habitants des zones rurales. Donc on était évidemment très satisfaits que ce plan arbre voit enfin le jour. Donc des bonnes choses, des insuffisances aussi, puisque dans toute cette délibération qui était vraiment très dense, dans laquelle il y a énormément de choses sur les questions de déchets, d'énergie, ça brossait assez large. Pas un mot sur la question de l'éolien, dont on sait que c'est un peu la bête noire de Laurent Wauquiez. Donc il y a beaucoup de choses sur le photovoltaïque. Rien sur l'éolien. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais c'est quand même curieux qu'il n'y ait pas un mot sur cette question de l'éolien.
Même pour le casser, quoi, pour dire
voilà,
on en veut pas.
Voilà, pas un mot non plus sur les questions d'agroforesterie ou sur le bois construction. Il y a beaucoup de choses sur le bois énergie, mais rien sur le bois construction, alors que là aussi, c'est quand même un des leviers intéressants quand on monte des politiques environnementales au niveau de la région. Donc voilà, il y avait des choses intéressantes, il y avait des gros manques. Et puis surtout, la chute un peu de cette délibération environnement, c'est que quand on regarde les rapports un peu plus loin, c'est-à-dire les rapports de la commission permanente qui se tient dans la foulée de l'Assemblée plénière, eh bien on trouve au chapitre environnement un rapport qui concerne une réserve naturelle qui a été classée réserve naturelle en 2014, donc assez récemment, hein, parce qu'il y a notamment des gîtes d'hivernage de chauves-souris qui sont considérés comme des habitats protégés. Et on se rend compte que dans ces rapports, la région donne une autorisation pour un nouveau puits de captage destiné à la Société des eaux de Volvic pour pouvoir forer en pleine réserve naturelle afin de fournir de l'eau en bouteille plastique. Ce qui, évidemment, porte un coup à ces grandes déclarations de la délibération environnement et pose une fois de plus la question de la cohérence entre les discours et les actes en matière de politique régionale.
Et c'est la région qui peut donner ses autorisations ?
Absolument, c'est la région qui donne son autorisation.
C'est une réserve régionale ?
Oui, tout à fait.
Bon, elle est où d'ailleurs ?
C'est dans le du côté de l'Auvergne et de Volvic.
Bon. Qui contrôle la bonne tenue de ce contrat État-région ?
L'État et la région.
D'abord, qui l'a proposé ? C'est l'État qui demande aux régions de signer ça ?
Oui, c'est
ça a été fait sur toutes les régions.
Donc. Oui, c'est fait sur toutes les régions. En fait, il y a beaucoup de contrats comme ça en fait qui sont signés entre l'État et la région, ce qui est par ailleurs assez logique hein, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont des politiques nationales qui se déclinent au niveau régional et qui peuvent pas se faire sans un partenariat avec les collectivités locales. Donc souvent on entend parler des contrats de plan État-région qui sont des contrats plutôt axés sur les questions d'aménagement du territoire, d'infrastructures de transport, des choses comme ça. Donc c'est tout ce qui est censé assurer que l'État et les régions travaillent de manière un peu coordonnée, de manière à ce que tout ça soit un peu cohérent sur l'ensemble du territoire. Quoi.
Et donc ils s'auto-contrôlent. C'est-à-dire que si c'est pas... Là par exemple, c'est clair qu'il y a les autres Volvic, bon, ça paraît évident, en tout cas de la production de bouteilles plastiques, c'est une nouvelle industrie, beaucoup de camions qui vont trimballer, et puis probablement une partie de cette zone naturelle qui sera de fait privatisée.
Bah, sans compter surtout, parce qu'il y a déjà des puits de captage Volvic dans cette zone. Là, ce qui motive ce nouveau puits de captage, c'est qu'en fait, il y a un ancien puits de captage qui arrive à épuisement. Et il est écrit en toutes lettres dans la délibération que l'autorisation vise à épargner des difficultés économiques à Volvic, en fait. Donc voilà, le truc, il est très clair. Donc évidemment, un puits de captage comme ça en pleine réserve naturelle, tout le monde imagine assez bien les impacts environnementaux que ça peut avoir. Après, pour répondre à la question sur le contrôle de tout ça, il y a quand même d'autres instances. Il y a notamment ce qu'on appelle le CESER, qui est le Conseil économique, social et environnemental régional, qui est un organisme indépendant qui rend régulièrement des avis justement sur des politiques régionales, sur des documents soumis au vote, mais aussi sur des éléments de suivi, de mise en œuvre justement de ces différents contrats et des engagements pris par la région, mais qui n'est que consultatif. Et puis après, y a toujours la possibilité de faire des recours juridiques quand on considère qu'une décision va à l'encontre des règles du jeu, c'est-à-dire de ce qui a été voté, acté par le Conseil régional, puis soumis, puisque toutes les délibérations qui sont votées en assemblée plénière sont ensuite envoyées à la préfecture, qui fait ce qu'on appelle un contrôle de légalité, c'est-à-dire vérifie qu'on ne prend pas des décisions contraires à la loi, et qui enregistre ces votes qui, à partir de là, s'appliquent comme des règles à la région elle-même.
Voilà, le problème, c'est que ce type de contrat État-région ne fait pas office de loi, quoi.
Alors, ça ne fait pas office de loi, et puis même les recours juridiques, etc., ne fonctionnent pas toujours. On a, par exemple, en ce moment, un projet qui est en train de se développer en plein parc naturel régional des Monts d'Ardèche, dans un village qui s'appelle Saint-Pierre-de-Colombier, où une congrégation religieuse décide de construire... Alors, ce qui au départ devait être une basilique de 3500 places, avec place de stationnement, de parking, passerelle pour enjamber la rivière, des bâtiments pour loger les pèlerins, etc. Donc un projet faramineux. Alors je dis au départ ça devait être une basilique parce que visiblement ils n'ont pas eu l'accord du Vatican pour pouvoir nommer ça basilique. Je crois qu'après ils ont demandé à ce que ce soit une église et qu'ils n'ont pas non plus eu l'agrément de la paroisse. Donc finalement ce sera une chapelle, mais une chapelle de 3500 places dans un petit village des Monts d'Ardèche, ce qui est déjà assez stupéfiant en soi-même.
Pardon, mais historiquement, il y a un pèlerinage qui
oui,
serait là-bas.
Oui, oui, voilà. Historiquement il y a une statue effectivement qui fait l'objet de pèlerinage, mais là l'idée c'est de faire une sorte de tourisme religieux beaucoup plus développé. Et donc ce qui est incroyable, c'est qu'on a appris qu'en fait le permis de construire avait été accordé, alors que la demande de permis de construire, à la question le projet est-il situé dans un parc naturel régional, les demandeurs, donc la congrégation, avaient coché la case non, alors qu'ils sont de fait en plein parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Que du coup, aucune étude d'impact environnemental n'a été faite, mais il n'y a pas eu non plus de dérogation d'accorder. Enfin bon, bref, tout a été fait totalement en dehors des clous. Et donc, il y a un collectif évidemment qui s'est monté, notamment d'habitants et de paysans, parce que tout ça naturellement se fait sur des espaces naturels et sur des terres agricoles. Donc il y a un collectif qui s'est monté, qui a fini par occuper le chantier parce qu'il n'arrivait pas à se faire entendre par d'autres moyens. Et donc des réunions ont eu lieu en préfecture. Donc les choses sont suspendues pour l'instant jusqu'au 1er octobre. Un groupe de travail a été mis en place, le ministère a été saisi, une étude d'impact environnemental devrait être faite. Mais c'est très édifiant sur le fait que la demande de permis de construire soit au mieux Par omission, au pire mensongère sur le fait qu'on est dans un parc naturel régional c'est et ça, que c'est contraire à la charte du parc naturel
là,
régional.
Là, pour le coup, il y a quelque chose de légal.
Enfin, là, moi, il me semble que ce simple fait devrait faire redémarrer tout à zéro, en fait. Et aujourd'hui, clairement, ce n'est pas le cas. Voilà, donc
que fait
on
la
est confronté ça en permanence. Alors, nous avons saisi Laurent Wauquiez sur cette question. On lui a adressé un courrier pour lui demander... parce que c'est contraire aux objectifs justement du SRADET, qui est le schéma régional un peu directeur sur l'aménagement du territoire. C'est contraire justement aux chartes de parcs naturels régionaux sur lesquels quand même la région a pleine compétence. C'est contraire du coup là au contrat justement biodiversité État-région qui vient d'être adopté. Enfin je veux dire c'est contraire en fait à tout ce qu'on raconte quoi. Et la réponse qui nous a été faite, c'est en gros, c'est la mairie qui délivre le permis de construire, c'est pas de notre ressort. Donc on a réitéré quand même, parce qu'on s'est pas satisfait de cette réponse, on a posé une question orale justement là pendant la session plénière à Laurent Wauquiez, et il nous a à nouveau été répondu la même chose, que c'était pas de la compétence de la région, alors que la région ne se prive pas de faire plein de choses qui sont pas de sa compétence, comme de financer par exemple des routes nationales, hein, comme en Haute-Loire avec la RN88, qui n'est pas de la compétence de la région, ou d'organiser la distribution de masques pendant l'épisode de Covid. Donc la région sait faire quand il y a quand elle considère qu'il y a un intérêt général, c'est faire en dehors de ses compétences. Et là, pour le coup, on est sur un motif d'intérêt général, de protection du foncier agricole, des espaces naturels, de la biodiversité et juste de la crédibilité en fait des parcs naturels régionaux dans leur ensemble, quoi. Donc voilà, épisode à suivre. On va continuer évidemment à suivre ça de très près, mais ça illustre pour moi assez bien le décalage qu'on a souvent entre des choses qui peuvent aller dans le bon sens, qui sont votées à la région, et malheureusement ce qu'on constate sur le terrain, qui a un sérieux train de retard sur ces quelques avancées qu'on a sur le papier, quoi.
Bien. Au moins, il n'y a pas de financement régional sur cette méga-chapelle ?
Non, tout à fait. Effectivement, il n'y a pas, de financement régional là-dessus. C'est du financement privé avec abattement fiscal et possibilité de déduire ça de ses impôts, ce qui représente quand même une somme de plusieurs millions d'argent public, au passage.
C'est dit. Vous avez parlé également du plan de relance post-Covid, voilà, ce que la région proposait pour faire revivre, hein, puisque effectivement on est tous
dans
l'attente.
Ouais. Alors effectivement, un plan de relance avec là aussi des choses intéressantes et des choses qui le sont moins, un souci surtout pour nous qui est on a vraiment l'impression que ce plan de relance, il est... exactement le même que celui d'avant, en fait. C'est-à-dire qu'on est encore très orienté sur les questions de compétitivité, de croissance économique, beaucoup d'innovation technologique, un développement un peu tous azimuts du numérique. Donc finalement, on retrouve les mêmes tendances que celles qui étaient déjà présentes avant le confinement, et qui sont relancés en situation post-confinement. C'est-à-dire que concrètement, on n'a pas eu le sentiment qu'il y ait eu justement de changement de pied ou de réflexion en profondeur sur les enseignements de cette période d'arrêt brutal de l'économie et sur la question de ses limites, de nos zones de vulnérabilité, de ce qui rend aujourd'hui l'économie fragile. Et du coup, concrètement, s'il y a une deuxième vague d'épidémie, de nouveaux épisodes de confinement, de nouveaux arrêts de secteurs industriels, aériens ou autres, les mêmes mots provoquant les mêmes effets, en fait, on va retomber exactement dans la même situation. Donc là, il n'y a aucune mesure ni de bifurcation, ni même de correction. Au contraire, il y a un côté où on réaccélère dans la même direction. Ce qui est assez inquiétant du coup pour la suite et qui est assez inquiétant aussi sur la difficulté une fois de plus d'une grande majorité d'élus à au moins remettre en question en fait les grands systèmes de croyances avec lesquels on s'est construit quoi. Donc on a essayé d'apporter justement des éléments de questionnement et on a même essayé vraiment de le faire de manière pas provocatrice et pas dogmatique, mais parce que là, il y a vraiment au moins à minima des questions à se poser avant de choisir de repartir dans la même direction plus vite.
Quel genre de questions vous avez posées ?
Bah, du coup, notamment, je parlais là du tout numérique et de l'innovation technologique. C'est une tendance qui était déjà très présente avant et qui, là, est encore renforcée. Nous, on a proposé que dans ce plan de relance, il y ait un volet de réflexion sur un plan low-tech, basse technologie. Qui est un terme par ailleurs qui n'est pas très bon parce que pas très positif. Il faudrait trouver peut-être autre chose. C'est-à-dire, c'est tous ces dispositifs qui s'inventent de plus en plus au sein de la société et de manière d'ailleurs très répandue, pas seulement en France, hein, à l'international, qui sont des innovations, mais des innovations qui, au lieu de miser sur justement le numérique, la technologie, l'électronique, etc., misent plutôt sur le fait d'être le plus autonome possible, donc d'avoir besoin le moins possible de matériaux et de terres rares, le moins possible d'électricité, d'énergie fossile, le moins possible en fait de choses qu'on ne trouve pas facilement à proximité, à bas coût et accessibles pour tous. Et en fait, il y a des trésors d'inventivité, d'ingéniosité et d'une forme d'innovation qui se développent dans ces secteurs, qui en plus permettent de mettre ces innovations à la portée du plus grand nombre, tout en étant beaucoup moins énergivores, beaucoup plus respectueux de l'environnement, beaucoup moins toxiques, etc.
Et parfois qui ne coûtent rien même hein, à mettre
voilà,
en place.
Voilà, tout à fait. Et en fait, tout ce plan-là de l'innovation est totalement ignoré à la fois par la Startup Nation d'Emmanuel Macron et par la région la mieux gérée de France de Laurent Wauquiez. Et donc on a voulu mettre un peu un coup de projecteur là-dessus. On avait déjà essayé par d'autres biais. Ça n'est pas passé non plus cette fois-ci, puisque ce qui nous a été répondu, c'est nous, on répond aux besoins des entreprises.
Eh oui.
Et donc, évidemment, bah, les entreprises ne demandent pas du low-tech, elles demandent du numérique toujours plus connecté, toujours plus pointu. Et puis, la deuxième chose, c'était quand même une autre vice-présidente qui m'a dit « Mais si, on fait plein de choses, on fait du numérique responsable ». Sauf que le numérique responsable, quand on regarde là aussi un peu attentivement les rapports qui passent à la région, c'est quoi ? C'est des ombrelles connectées. Pour les cultures de petits fruits en maraîchage. C'est-à-dire que concrètement, en fait, vous avez des ombrelles manufacturées, connectées par du numérique, par des batteries au lithium, avec tout ce que ça suppose derrière de smartphones, etc., pour pouvoir s'orienter le mieux possible en fonction de l'inclinaison du soleil, de l'emplacement de vos petits fruits, de où ils en sont, etc. C'est le fait maintenant de surveiller les déplacements de loups en montagne par des drones, puisque nous avons aussi eu ça dans les rapports, ou le fait d'équiper en GPS les troupeaux de brebis et les chiens de protection pour pouvoir détecter des mouvements de troupeaux inattendus qui pourraient indiquer une attaque de loups.
Et les drones, ils tirent après sur les loups ou...
Pas encore.
Ouais.
C'est le fait de mesurer l'épaisseur du manteau neigeux par satellite pour savoir où on va faire cracher les canons à neige. Et ça, c'est
pour
présenté.
Moins consommer.
Et, exactement. Et ça, c'est présenté comme du vertueux. Voilà. Donc tout ça, c'est des usages éclairés selon l'exécutif. Et alors tout le cycle de vie du produit, c'est-à-dire tout ce que ça suppose d'énergie, de ressources pour fabriquer tous ces appareils. Est totalement passé sous silence. On est dans le règne de l'immatériel, donc c'est comme si tout ça ne nécessitait pas davantage de matière, d'énergie, etc. Au passage, on sait aujourd'hui que les mines de cobalt, par exemple, c'est des endroits où marche à fond le travail des enfants, enfin bon, bref, conditions de travail totalement indécentes. Et ce qui n'est pas du tout évalué non plus, c'est la fragilité d'un système économique qui repose entièrement sur des flux électriques, quoi. C'est-à-dire que concrètement, si pour une raison X ou Y, peut-être difficilement prévisible ou envisageable aujourd'hui, mais le Covid l'était, si pour une raison X ou Y, demain, il y a rupture d'approvisionnement électrique, ça veut dire que concrètement, plus on est connecté, plus tout repose là-dessus, plus on se met en situation de vulnérabilité critique. C'est-à-dire que le risque de rupture, il n'est peut-être pas très élevé. Mais par contre, sa criticité, c'est-à-dire son impact, il est tellement élevé que même avec un risque faible, on devrait prendre ça en compte. Et aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont absolument pas prises en compte dans les politiques régionales et dans les grandes directions qui sont prises, notamment en termes de relance économique.
Il n'y a pas eu à la région de bilan tiré de ces deux mois de confinement, j'allais dire presque territoire par territoire, commune par commune, pour se rendre compte à la fois, par exemple, de ce grand assainissement dont on vient de parler, mais que l'autonomie alimentaire, c'est pareil. Si tous les routiers étaient tombés malades, il y aurait eu un problème. Voilà, sur la gestion de l'eau, c'est pareil. Il n'y a pas eu de bilan.
En fait, il n'y a pas de réflexion sur ça veut dire quoi une gestion de crise. Il n'y a pas de réflexion sur des risques systémiques. Donc, il y a eu un bilan, mais le bilan, il porte plutôt sur un état des lieux. En gros, qui a souffert et qui souffre encore aujourd'hui de tout ça, notamment dans le milieu, dans le tissu économique, et donc à qui on va distribuer des aides. C'est principalement ça la réflexion. C'est une réflexion qui est nécessaire, hein, par ailleurs, parce qu'aujourd'hui, clairement, dans les acteurs touristiques, les commerçants, il y a plein de gens qui sont vraiment, vraiment dans une situation de détresse économique et qui ont besoin d'aide exceptionnelle. Mais si ça ne s'assortit pas d'une réflexion en profondeur qui permet de lever un peu le nez du guidon, de regarder devant, de dire quels enseignements on en tire, de conditionner les aides de la région justement à des éléments d'adaptation, de reconversion, pour être plus adaptés justement à ce monde très incertain qui nous entoure, malheureusement, ça n'est que repousser le problème. C'est-à-dire que concrètement, c'est comme en agriculture. Hein, on donne beaucoup d'aides exceptionnelles aux agriculteurs à chaque épisode de sécheresse, de grêle, d'aléas climatiques, ce qui est nécessaire. Mais si, à côté de ça, on n'accompagne pas de manière un peu volontariste les agriculteurs sur des cultures moins dépendantes justement de la ressource en eau, plus diversifiées, plus rustiques, pour être moins sujettes aux maladies, sur de la diversification pour qu'en cas de maladie, ce ne soit pas toute la culture qui tombe. Peut-être moins dépendant aussi des exportations et davantage tourné vers de la consommation locale pour là aussi moins dépendre des flux de marchandises internationaux. Enfin, voilà, toutes ces choses qu'on devrait pouvoir faire encore plus à la lumière justement du Covid, c'est une fois de plus reculer pour mieux sauter. Et c'est de ça dont on manque aujourd'hui, c'est d'une vision de long terme. D'une vision de long terme qui ne soit pas uniquement, on répare les dégâts sans réfléchir aux causes de ces dégâts et sans accompagner du coup les acteurs sur la pérennité en fait de leur activité.
Mais j'ai envie de poser cette question pour qu'on prenne un peu de hauteur, mais est-ce que c'est de l'ordre de l'illusion dans lequel ils sont, de l'idéologie trop violente, ou est-ce qu'il y a vraiment une peur finalement à prendre en compte ces nouvelles problématiques qui arrivent, et donc une espèce de voile qui reste, on ne veut pas le voir, c'est trop stressant comme avenir.
Je pense qu'il y a un peu un mélange de tout ça. Il y a aussi des phénomènes d'inertie qui sont liés au fait d'être majoritaire dans une assemblée. C'est-à-dire que, du coup, tout le monde se conforte un peu dans le fait de ne pas changer de ligne, quoi. Enfin, mais du coup, il y a un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qu'on peut qualifier de dogmatiques, mais qui en fait, sont aussi des réflexes humains. C'est-à-dire qu'on a tous, on s'est tous construits avec des systèmes de croyances et de valeurs, et on sait que c'est très difficile d'en changer. Et ça, c'est valable dans toutes les familles politiques. C'est très difficile de se remettre en question. Et c'est vrai que quand on a grandi avec l'idée qu'il fallait de la croissance économique pour ensuite éventuellement redistribuer les fruits de la richesse, etc. À un moment donné, rompre avec ce schéma-là en se disant finalement, là, on se rend compte que cette croissance économique calculée selon la hausse du PIB, elle ne veut pas forcément dire synonyme de mieux vivre pour tout le monde. Elle est aussi génératrice d'inégalités sociales. Et puis, elle est en train d'épuiser les écosystèmes. Et puis, en fait, finalement, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça, comment on pourrait faire différemment. C'est tout un processus de déconstruction, tout un processus intellectuel, de remise en question, qui est compliqué à la fois à titre humain, personnel, et à titre politique. Ça demande une grosse remise en cause, qui n'est pas très sécurisante. Et en plus, ça ne fonctionne que si à un moment donné, vous avez des gens qui viennent vous bousculer, justement. Parce que si vous restez dans votre cocon, entre personnes qui pensent la même chose, avec du coup, en plus, des acteurs dehors qui vous confortent là-dedans, parce qu'ils voient aussi qu'à court terme, ils ont plutôt besoin que la région continue à financer sans demander aucune contrepartie des pneus Michelin ou des semences Limagrain. Bah, en fait, voilà, tout ça crée un espèce de milieu qui n'est pas très propice au changement et à bousculer les mentalités. Et puis, il y a aussi que... peut-être tout simplement, et je le dis vraiment sans acrimonie et sans cynisme, mais peut-être qu'ils ne savent pas faire. C'est-à-dire que, je veux dire, nous, ça fait des années que, justement, on regarde du côté des alternatives, qu'on voit toute la richesse de ce qui existe en termes de... En termes économiques, en termes fiscaux.
Qu'on parlait de l'économie, passer sur un grand plan comme vous parliez, et puis quelque chose d'un peu plus écologique, ça génère aussi de l'emploi. Enfin, on peut imaginer potentiellement un peu plus que ce qu'on voit à l'heure actuelle.
Et du coup, nous, ça fait des années qu'on baigne là-dedans du coup, les alternatives, on les connaît, on les a étudiées, on les a parfois co-construites, donc on sait que ça peut fonctionner. On sait qu'on peut être beaucoup plus sobre en matière d'énergie et se passer à terme des énergies fossiles et du nucléaire. On sait qu'on peut faire de l'économie circulaire réellement vertueuse. On sait qu'on peut mesurer la santé économique d'une région ou d'un pays autrement qu'avec le PIB, comme ça se fait d'ailleurs ailleurs. On sait qu'on peut remettre en cause la valeur travail comme élément central de la sociabilisation des individus. Enfin, il y a plein de choses que nous, on a déjà déconstruites. Mais en fait, toutes ces alternatives, je ne suis pas sûre du tout que les élus LR, par exemple, en aient connaissance. Ou alors, s'ils en ont connaissance, c'est justement de loin. Et pour eux, c'est des trucs un peu gadgets, etc. Ils ne se rendent pas compte qu'on a des prix Nobel d'économie qui ont travaillé sur ces questions-là, qu'il y a des millions de personnes dans d'autres pays qui les mettent déjà en œuvre. Et donc voilà, pour eux, ça reste des délires un peu d'écolo, bobo, alternatif ou je ne sais quoi. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de passer en fait, à côté de quelque chose qui non seulement est viable, mais qui de fait prend de l'ampleur dans certains coins. Et qui, si on ne le met pas en place très rapidement dans nos sociétés dites occidentales, développées, civilisées, tout ce qu'on veut, c'est nous qui allons finir de précipiter tout le monde dans le chaos. Quoi.
Je me posais la même question pour les ingénieurs.
Mais après, je pense qu'il y a vraiment, il ne faut pas sous-estimer non plus l'inertie du système. Ouais, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de personnes en tant qu'individus dans leur vie quotidienne, en tant qu'êtres humains, qui bougent beaucoup sur ces questions-là, qui s'intéressent, qui se documentent, etc. Mais quand ils passent la porte de leur bureau, en fait, ils redeviennent salariés, quoi, quel que soit d'ailleurs leur niveau hiérarchique. Parce qu'il y a toujours un conseil d'administration, des actionnaires ou un fonds de pension américain au-dessus. Et c'est très compliqué de faire bouger les choses dans une entreprise quand on est salarié. Et je crois que y a un décalage là, et c'est là où il faut peut-être réfléchir à des stratégies pour forcer la porte de ces multinationales et faire en sorte que au sein de ces entreprises, tous ceux qui ont bougé à titre individuel puissent aussi bouger à titre professionnel.
Vaste projet.
Tout à fait.
Il me reste sur mon petit papier le conditionnement des aides. Voilà, quel est ce point conditionnement des aides ?
Donc effectivement, on a présenté beaucoup d'amendements, on a fait beaucoup de propositions pendant cette session, donc je vais pas toutes les détailler, mais bon, il y avait notamment un amendement assez conséquent sur la question de la protection de l'eau, parce que quand même là, juste la question de la sécheresse et des usages de l'eau, à force de dire qu'elle est critique, elle devient carrément rouge écarlate, donc on a remis ça sur. Sur l'ouvrage, on nous a dit, l'amendement a été rejeté, mais on nous a redit qu'il y avait une grande réflexion en cours sur ce sujet. Donc On espère que ça ira à son terme et de manière très rapide. Sur les questions aussi de santé et environnement, bon, là, c'est pareil, c'est quand même un des enseignements du Covid, les liens justement entre la question des habitats naturels, les zoonoses, etc. Donc, les questions de santé environnementale étaient à nouveau absentes, donc on a essayé de les réintroduire dans la délibération. Voilà, on a fait pas mal de propositions de ce type-là, et notamment, effectivement, sur la conditionnalité des aides. C'est quelque chose qui revient depuis le début du mandat, sur lequel on revient régulièrement, parce que ça nous paraît vraiment être la base. C'est qu'aujourd'hui, en fait, la région, dans sa compétence de développement économique, donne des aides à des entreprises et le fait sans contrepartie. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas de critères ni de conditions à ces aides. On pourrait demander aux entreprises qu'on aide, et je parle là notamment des grandes entreprises, hein, dont certaines sont cotées en bourse, dont certaines versent des dividendes à leurs actionnaires, hein, on pourrait au moins leur demander de faire des efforts sur les emplois, sur le fait de créer de l'emploi, de créer des emplois de qualité, qui soient des CDI et pas des contrats précaires. On pourrait leur demander d'avoir des exigences environnementales plus importantes. On pourrait leur demander, allez, même soyons fous, de réfléchir à l'utilité sociale de ce qu'elles produisent. Enfin, voilà, on peut imaginer quand même des choses. C'est quand même de l'argent public qu'on donne à des entreprises privées, je répète, une fois de plus, dont certaines sont cotées en bourse et versent des dividendes à leurs actionnaires. Donc, on pourrait au moins leur demander des engagements en contrepartie. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de conditionnalité, ni sociale ni environnementale, comme au niveau du gouvernement, hein, pour tout ce qui est crédit impôt, compétitivité entreprise, crédit impôt recherche, etc. Donc régulièrement, on pose cette question-là. Régulièrement, ça nous est refusé. Ça a été le cas encore cette fois-ci. Et par contre, à côté, et c'est pour ça que j'avais envie de le mettre en parallèle, on a cette entreprise à Gerza, Luxfer, qui est une entreprise dont on a beaucoup parlé justement pendant la pandémie, qui fabrique des bouteilles d'oxygène médical, et qui est une entreprise...
La dernière, d'ailleurs, de France.
Voilà, qui est aujourd'hui abandonnée par ses précédents propriétaires.
Partiellement cassée, même, d'ailleurs.
Partiellement cassée, et sur laquelle il aura fallu, justement, l'apparition du virus pour que les salariés et les syndicats puissent commencer enfin à se faire entendre sur le fait qu'on a là peut-être quand même une ressource un peu stratégique, hein, qui serait bon de garder sur le territoire avec les savoir-faire qui vont avec. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que les anciens propriétaires, en fait, ne veulent pas vendre. C'est-à-dire que, enfin, voilà, pour l'instant, ils souhaitent garder cette entreprise en tant qu'actif dans leur capital. Et en fait, les syndicats font un gros travail et se tuent à expliquer que le problème actuel, c'est pas tant de trouver un repreneur que d'obliger en fait à ce que cette entreprise soit mise en vente pour qu'elle puisse justement être reprise. Et donc là, on a eu un mini feuilleton pendant cette session plénière, parce qu'il y a un premier amendement qui a été déposé par le Parti Socialiste et sur lequel il y a eu un avis favorable de la région pour justement demander à ce qu'il y ait une aide à la reprise. Et il a fallu, une fois encore, que notre élu qui suit ces questions, Émilie March, rappelle que là, la question, la première, elle n'était pas de trouver un repreneur ou de mettre de l'argent pour la reprise, mais plutôt que ce soit mis en vente. Et donc, on a déposé un vœu allant dans ce sens qui a été légèrement amendé par Laurent Wauquiez, mais qui a été adopté, celui-là, et qui donc demande à l'État de faire pression pour que cette entreprise puisse enfin être mise en vente, reprise, et qu'on puisse garder les emplois et les compétences et le savoir-faire sur le territoire.
Et quand on parle de conditionnalité des aides, est-ce qu'on... Ça sous-entendrait qu'il y ait une sorte de police régionale aussi pour contrôler que ça se fasse correctement. Et qu'est-ce que ça sous-entend ? Est-ce que si ce n'est pas fait, l'entreprise doit rendre l'argent ? Enfin, je la pose au niveau régional parce que des fois, à l'État, la question se pose aussi.
Bien sûr,
me demande vraiment qu'est-ce qu'on peut faire.
Pour moi, cette question-là, elle est totalement liée à la question des montants. C'est-à-dire que concrètement, c'est quand même pas la même chose. Quand vous donnez 1 500 € à une ferme pour améliorer des bâtiments d'élevage ou s'acheter du matériel, et quand vous filez plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros à une grosse multinationale qui fait déjà des profits par ailleurs. C'est d'ailleurs pour moi quelque chose d'assez paradoxal que ce genre de politique soit mise en place par des gens qui se réclament du libéralisme économique et qui réclament la non-intervention justement de la puissance publique dans les affaires privées et dans la sphère économique.
Eh oui, soulignons-le.
C'est quand même, voilà, c'est quand même assez contradictoire. Et donc rien ne nous oblige à aider ces entreprises qui sont des grosses entreprises qui se portent bien. Et donc voilà, la moindre des choses, c'est que quand on leur donne de l'argent public, l'argent des contribuables, bah, quand on soit en droit de leur demander que ça fasse du bien aux habitants du territoire, en fait. C'est quand même ça, notre mission première. Notre mission première, c'est de mettre en place des politiques et une gestion de l'argent public qui, à un moment donné, fasse du bien aux habitants du territoire. Là, pour le coup, oui, je trouve que sur certaines sommes et sur certaines entreprises, on pourrait tout à fait être en droit de demander que, par exemple, tous les ans, on ait un petit rapport d'étape sur une batterie de 4-5 indicateurs, proportion de CDI dans l'entreprise, nombre d'emplois créés, amélioration des processus de production en matière d'impact environnemental. Enfin, voilà, je veux dire, comme...
Et donc après, sanction, alors ?
Et donc après, absolument. Absolument. Après, sanctions. C'est-à-dire que, concrètement, soit les subventions ne sont pas reconduites, soit, je ne sais pas, imaginons une grosse entreprise comme ça que la région subventionne et qui, dans l'année où elle perçoit la subvention publique, licencie, comme ça se fait beaucoup en ce moment, tout en versant des dividendes à ses actionnaires et en dégageant des bénéfices. Bah, moi, je suis pour que la région, dans ces cas-là, demande le remboursement des subventions accordées. Parce que ça veut dire que c'est une entreprise qui non seulement n'a pas besoin de l'argent public, mais qui en plus en fait mauvais usage. Or, des bons usages, les idées ne manquent pas. C'est pas comme si on savait pas quoi faire de l'argent dans la région, et c'est pas comme si on n'avait pas des PME, des commerçants, des artisans, des festivals, des associations qui...
Obligés
de demander et de remplir je ne sais combien de dossiers pour avoir 500 euros de subvention, quoi.
On arrive au terme de cette émission, Corinne Morel-Darleux. Qu'est-ce que vous allez faire là maintenant ? C'est l'été, c'est les vacances ?
Eh bien là, cet été, je vais lire et écrire, principalement. Continuer à m'occuper de mon potager.
Bon.
Voilà, et probablement des nouvelles choses en matière de publication, je l'espère, d'ici la fin de l'année, plutôt du côté du roman jeunesse cette fois-ci.
Ah ! Eh ben, on se retrouvera pour ça. Et puis pour la suite de ces assemblées plénières, la prochaine c'est quand ?
La prochaine ce sera les 15 et 16 octobre.
Ouh là là, eh ben, bon été alors.
Ouais, merci à vous tous aussi.
Interview.
Okay, the bird.